Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, les versets 3 à 23. Le jour où le Seigneur t'aura donné le repos, après ta peine, ton tourment et la dure servitude à laquelle tu as été assujetti, tu entonneras cette chanson sur le roi de Babylone. Comment a-t-il fini l'oppresseur ? Comment a fini son arrogance ? Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs, qui frappaient les peuples avec fureur, qui frappaient sans répit, subjuguant les nations dans sa colère, les persécutant sans ménagement. Toute la terre se repose enfin tranquille. On éclate en cris de joie. Même les cyprès se réjouissent à cause de toi. Et depuis que tu es étendu, les cèdres du Liban disent « Il ne montera plus celui qui venait nous abattre ». Le monde d'en bas s'ébranle pour toi à l'annonce de ta venue. Pour toi, il réveille les trépassés, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils se mettent à parler et disent « Toi aussi te voici désormais comme nous ». Sans force. Ta majesté a dû descendre sous terre au son des lyres. Sous toi, un matelas de vermine, et les vers sont ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations, toi qui disais « Je monterai » dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre sous la terre, au plus profond de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te dévisagent attentivement. Est-ce bien là l'homme qui faisait trembler la terre, qui faisait s'écrouler les royaumes, qui transformait le monde en désert, rasant les villes et ne rendant pas à leur foyer les prisonniers. Tous les rois de la terre, sans exception, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un exécrable avorton, couvert d'hommes tués, transpercé par l'épée, descendu sur les pierres de la fosse comme un cadavre piétiné, tu ne seras pas réuni à eux dans une sépulture, car tu as détruit ton peuple, tu as tué ton pays. La race des méchants ne sera plus jamais nommée. Préparez le massacre des fils pour les crimes des pères, de peur qu'ils ne se lèvent, ne s'emparent de la terre, ne couvrent les villes de la face du monde. Je me dresserai contre eux. Oracle du Seigneur le Tout-Puissant, de Babylone je supprimerai le nom et la trace, la descendance et la postérité. Oracle du Seigneur, j'en ferai un marécage, le domaine du hérisson. Je balayerai Babylone avec un balai qui fait tout disparaître. Oracle du Seigneur le Tout-Puissant. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les 11 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ils ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem, dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Je vous invite à chanter au cantique 115 dans Louange et Prière, les strophes, 116 dans le cantique Louange et Prière, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Imaginez un instant le chant sur la chute du tyran du prophète Ésaïe à l'époque d'Internet et de Facebook. Imaginez sa mort annoncée sur Twitter en 140 signes et l'univers entier l'apprenant en deux clics. On aurait même pu, aujourd'hui, anticiper, annoncer sa prochaine déposition, placer d'avance projecteur et caméra au bon endroit. On l'aurait vu tomber en direct, El Ben-Shahar, l'astre brillant fils de l'aurore, le soi-disant porteur de lumière. Aujourd'hui, les dictateurs tombent sous nos yeux, que ce soit subitement ou au ralenti. Le prophète biblique était moins réactif, mais ses lecteurs y gagnaient peut-être au change. Son poème railleur et méchant avait du souffle lorsqu'il prenait le temps de ridiculiser ce mégalomane qui se prenait pour Dieu. Imaginez encore l'entrée de Jésus à Jérusalem à notre époque. Voici ce personnage qui fait parler de lui en guérissant des malades et des handicapés, cet orateur inclassable, cet interlocuteur déconcertant, arrive à Béthanie dans la banlieue de Jérusalem. Passons sur les conditions dans lesquelles il réquisitionne cet anon. Il pénètre dans la ville et c'est sinon un triomphe, du moins un de ces petits événements dont les médias sont friands. Sa personnalité rencontre les attentes de la population, attentes dont il est bien difficile de démêler et de connaître la nature. Religieuses, elles le sont certainement, mais ne sont-elles pas aussi politiques? Quels sont ses slogans? Quelles menaces représentent-ils pour le pouvoir en place? Instruits par 2000 ans de christianisme, nous savons toute l'ambiguïté des messianismes et nous n'aurions aujourd'hui guère de mal à considérer cette initiative de Jésus sinon comme une erreur, du moins comme une imprudence. Mais qu'en était-il pour lui et pour ses contemporains quelques jours avant de fêter la Pâque? Entre le tyran tombé et le Messie qui chemine vers une gloire paradoxale, il sait, lui, que sa véritable identité ne sera comprise qu'à la croix. Entre le tyran et le Messie s'ouvre l'espace de la foi et plus généralement celui de l'humanité. En gardant présente à l'esprit l'actualité que nous traversons, arrêtons-nous à cette lamentation parodique d'Ésaïe et à ce récit évangélique de Matthieu, moins pour y trouver des réponses que pour y laisser résonner des échos. Notre lecture, qu'il s'agisse de la Bible ou du journal, nous impose en permanence une tension entre une impression de répétition de l'histoire, rien de nouveau sous le soleil, et une impression de radicale nouveauté, d'inédit, d'inouï. Alors, si nous voulons mieux comprendre l'Évangile, si nous voulons nous arrêter sur le sens de notre vie, chacun et tous ensemble, nous sommes tiraillés entre ce qui nous singularise et ce qui ne nous singularise pas vis-à-vis de nos frères et sœurs humains. Pour démêler tout cela, considérons d'abord la joie consécutive à la libération ou la joie suscitée par l'espérance, qu'elle s'exprime dans la liesse populaire ou dans la forme littéraire plus élaborée de la prophétie ou du récit. Joie ambivalente, nous le savons, mais moments et sentiments dont il ne faudrait pas négliger l'importance. Nous nous arrêterons ensuite sur le choix risqué que fait Jésus lorsque, organisant son entrée à Jérusalem, il décide d'assumer les attentes de ses contemporains au risque de les décevoir, ou de n'en pas être compris. Enfin, nous tirerons quelques fils du côté de ce que nous disent ces textes au sujet du rapport au pouvoir. La joie donc, et plus précisément cette joie méchante, railleuse, la joie de celui qui a vu sauter la chape de plomb et tomber celui qui naguère terrorisait, violait, emprisonnait, torturait, assassinait. Comment es-tu tombé, astre brillant fils de l'aurore? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations, toi qui disais « je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Mais tu as dû descendre sous terre au plus profond de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te dévisagent attentivement. Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et s'écrouler les royaumes, qui transformait le monde en désert, rasant les villes et ne rendant pas les prisonniers à leur foyer? On ignore qui est exactement ce roi de Babylone dont Ésaïe célèbre ici la chute. Il pourrait s'agir d'un roi assyrien, plus vraisemblablement de Nabucodonosor. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le prophète joue ici avec la mythologie ougaritique du dieu Attar, qui connaît dans son destin pareille déchéance. Et cette mythologie ougaritique, nous la connaissons nous plus familièrement dans sa version grecque. C'est l'histoire de Phaéton, le brillant, fils d'Éos, l'aurore. Elel Benchar, astre brillant, fils de l'aurore, est comme Phaéton, porteur de lumière, en grec phosphoros, en latin Lucifer. On pourrait d'ailleurs développer tout ce pan passionnant de l'histoire du texte d'Ésaïe qui a engendré le mythe de l'ange déchu Lucifer, puis l'a amalgamé avec un autre ange, l'accusateur Satan, et avec le diable. Mais ce qui doit ici retenir notre attention, c'est ce défoulement, ce que j'appelle de façon un peu provocatrice la joie méchante. Bien fait pour toi. Sans en faire l'apologie, reconnaissons qu'il s'agit d'un sentiment bien difficile à contenir. Le soulagement qui s'exprime ici est trop humain pour que nous ne l'ayons pas éprouvé. Or, la Bible, loin de se cantonner à des histoires pieuses et à de bons sentiments, laisse exhaler ici cette joie méchante, comme à d'autres endroits, elle laisse s'exprimer l'amertume, l'incompréhension, le doute, la révolte. Il m'importe, il nous importe, comme chrétiens, de savoir que notre humanité n'est pas gommée par notre foi. Non que ce défouloir soit définitif ou suffisant. Chacun sait que les lendemains de la tyrannie sont compliqués, parfois dramatiques, et il serait illusoire de croire tout réglé lorsqu'un dictateur est renversé. Ce n'est pas le dernier mot. Mais il faut pouvoir pousser tranquillement ce cri. Et une religion qui prétendrait empêcher ce cri de sortir, pour de prétendues raisons morales, serait à son tour tyrannique, ou nierait l'humanité. Il n'y a du reste pas seulement les victimes directes de cette opposition, de cette oppression qui pousse ce cri. L'humanité tout entière est concernée par la libération de celles et ceux qui vivaient dans le déni de leurs droits. La joie qui s'exprime par le chant ou par le cri, c'est aussi la nôtre, femmes et hommes solidaires des opprimés. Et c'est aussi un chant ou un cri de gratitude. Car lorsque, au culte, nous prions pour les peuples et pour les autorités, ce n'est pas le maintien du statu quo que nous demandons à Dieu, mais bien que règne la justice et la paix dans le monde. Aussi, lorsque tombe celui qui incarnait l'injustice et la violence dans tel ou tel pays, nos prières sont exaucées. Ce qui est vrai de la libération effective ne l'est pas moins de l'espoir d'une libération à venir. Et ici, nous retrouvons Jésus, juché sur son âne. Jésus dont l'entrée à Jérusalem suscite l'enthousiasme des foules. Ou plus exactement, nous rejoignons un récit, un témoignage plein de signaux, d'avertissements, de dangers de fausse lecture, de ces dangers que comportent tous les textes que l'on connaît trop bien. Exemple. Il est vrai que les évangélistes Matthieu et Luc, qui écrivent après et d'après Marc, parlent de foule, ainsi que Jean d'ailleurs. Mais Marc est plus discret. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route, et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne, se contentent-ils de dire. Faut-il alors, comme le font en général nos Bibles, intituler ce passage chez Marc « Entrée triomphale à Jérusalem ». Oui, bien sûr, il y a cette solennité, cette acclamation, ce « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient », qui donne à l'événement une couleur messianique et royale. La mise en scène de Jésus ou la mise en scène de Marc est claire. Elle fait référence à la prophétie de Zacharie rappelée tout à l'heure. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et proclamera la paix pour les nations. Clairement, Jésus ou Marc, qui connaissent leur classique, nous expliquent qu'un roi messie fait son entrée. Mais, d'un autre côté, que se passe-t-il? Beaucoup de gens sont présents. En fait, on a l'impression d'un petit groupe de fervents admirateurs qui ont organisé un peu inopinément cette manifestation et non pas de toute la population de Jérusalem descendue subitement dans la rue. Et d'ailleurs, comment aurait-elle été prévenue si Jésus a inopinément demandé qu'on lui amène cet anon? Texte tendu, énigmatique, et peut-être l'énigme du texte vient-elle du fait qu'il comporte en lui une tension entre la confiance joyeuse et la conscience tragique. Entre la volonté qui, d'une part, anime l'évangéliste de dire l'accomplissement de la prophétie et donc de raconter la liesse et l'espoir, de grossir peut-être les chiffres de ceux qui manifestent, et d'autre part, d'annoncer gravement et avec un sens littéraire aigu qu'un drame est en train de se nouer. Écoutons-le dire, par exemple, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, comme pour rappeler que l'horizon s'obscurcit. Écoutons encore le silence de Jésus au milieu de ses cris. Le silence de Jésus acclamé, entré sur le parvis du temple, dont il expulsera violemment les vendeurs peu après. Là encore, l'ambiance est crépusculaire. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Surtout et enfin, souvenons-nous qu'à plusieurs reprises, Jésus a annoncé sa passion et sa résurrection, mais qu'il a aussi formellement interdit aux disciples de dire qu'il est le Messie. Hésite-t-il ? Pèse-t-il le pour et le contre ? Attend-il le moment opportun ? Le récit évangélique ne nous livre ni renseignements psychologiques sur un éventuel débat intérieur, ni indices sur de possibles réflexions tactiques. Ce qu'il affirme en revanche, c'est que Jésus a conscience du destin qu'il attend et qu'il est déterminé à affronter ce destin. Si l'on prend ce portrait de Jésus au sérieux et qu'on ajoute les directives claires qu'il donne pour entrer à Jérusalem, on constate qu'en acceptant le statut de Messie, il accepte aussi toutes les incompréhensions que son attitude ne manquera pas d'entraîner. D'où la question insidieuse qu'on lui posera sur l'autorité au nom de laquelle il parle et agit. D'où le piège qu'on lui tendra sur l'impôt dû ou non à César. D'où les cols de casuistes que lui soumettront les Sadducéens après à propos de la résurrection. D'où les tensions répétées avec les scribes. Tout cela est comme en germe dans l'ambivalence assumée de l'entrée à Jérusalem. Jésus est trop lucide pour ne pas avoir anticipé sur les conséquences de son initiative. Il sait que la foule est versatile et que ceux qui l'acclament aujourd'hui exigeront bientôt sa mort devant Pilate. Il sait que son entrée frôle le trouble à l'ordre public. Ce mouvement que les autorités, tant politiques que religieuses, redoutent par-dessus tout. Probablement devine-t-il même qu'aucun démenti, qu'aucun rectificatif n'aura le moindre effet, dans la mesure où, bien qu'il ne soit pas destiné à provoquer un renversement de l'ordre établi, son message et son action subvertissent réellement cet ordre. Après avoir considéré l'ambiguïté de la joie que cause la chute du tyran et celle des attentes que suscite l'espérance messianique dont l'accomplissement paraît imminent, l'attitude de Jésus s'éclaire peut-être. Ce n'est ni un naïf qui se jette dans la gueule du loup en commettant l'erreur de provoquer les autorités qui le jugent menaçant. Ce n'est pas non plus un froid joueur d'échecs qui calcule et anticipe les coups pour arriver à ses fins. Ce n'est pas non plus celui qui a tout prévu, qui sait d'avance, comme nos catéchismes ont parfois tendance à nous le faire croire. Finalement, c'est plus simple. Jésus annonce à chacune et chacun de nous une libération qu'il a, qui le concerne personnellement. Son message ne vise à détrôner personne, sinon peut-être chacun de nous, de la posture de maîtrise et de refus d'être qui il est vraiment. Or, en s'émancipant des rituels, en jouant l'intention charitable de la loi contre son application bornée, en s'approchant de celles et de ceux qui souffrent, en disant la beauté de la finitude humaine, en dénonçant l'impasse de la prétention à dominer pour être, et l'erreur de ceux qui croient qu'il faut avoir pour être, Jésus propose une façon radicalement nouvelle de croire et d'être au monde. Ce faisant, il prend le risque de n'être pas compris de ceux qui, détenant le pouvoir, se sentent à juste titre ébranlés. Allons plus loin. Ce faisant, il prend le risque de n'être pas compris même de celles et de ceux qui se réclament de lui depuis 2000 ans. De nous, qui avons pourtant les meilleures dispositions à son égard. Oui, l'Évangile aussi a été perverti, incompris, tordu. Lui aussi a servi de couvercle à des iniquités et d'alibi à bien des régimes injustes. Or, le malentendu est là. Ce n'est pas une prétention à la prise de pouvoir que contient l'Évangile. Il reconnaît aux politiques son domaine propre. Les hommes ne sont pas des anges, et jamais l'Évangile ne met en cause l'existence et la légitimité du pouvoir temporel. Au XVIe siècle, à ceux qui avaient tendance à croire que les chrétiens étaient appelés à une perfection qui les aurait déliés du devoir d'obéir aux lois, Luther avait répondu avec une certaine malice « Certes, il est exact que les chrétiens ne sont, quant à eux, soumis ni au droit du glaive, ni au droit ni au glaive, et qu'ils n'en ont aucun besoin. Mais avant de vouloir gouverner le monde d'une façon chrétienne et évangélique, veille d'abord à le remplir de chrétiens authentiques. » Et au cas où ses interlocuteurs auraient nourri des illusions, il ajoutait « Tu n'y parviendras pas, car le monde et la masse sont et restent réfractaires au christianisme. » Ce renoncement de Jésus, de Luther, d'autres, est véritablement évangélique, au sens où ni l'un ni l'autre ni nous ne croyons que des valeurs ou des idéaux chrétiens soient capables de gouverner les hommes. Nous reconnaissons la légitimité du politique et ne prétendons pas empiéter sur son domaine. En un mot, avant même que la notion existe, la laïcité préexistait. Mais pour autant, la foi n'est pas déconnectée du monde. Elle n'est pas insensible à ses malheurs. La création tout entière, dit l'apôtre Paul, gémit maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Oui, la foi gémit et elle vocifère. Elle se révolte devant l'horreur et la misère, la violence et la guerre. Elle n'est pourtant pas condamnée à la tristesse. Elle se réjouit de la chute du tyran. Elle proclame la venue de son libérateur. Dans cette joie, nulle illusion sur les lendemains qui chantent, mais l'intention de chanter l'aujourd'hui et une espérance enracinée dans la conviction que nous sommes accompagnés. Nous ne sommes pas, à cet égard, différents des autres hommes, sinon que nous avons reçu une parole nue, vulnérable, comme un roi désarmé chevauchant son petit âne. Or, cette parole est une arme redoutable et redoutée des puissants. Cette parole entre à Jérusalem comme elle peut entrer dans nos vies. Elle fait de nous les femmes et les hommes que Dieu appelle à être tout simplement ce qu'ils sont, libres, libérés. Ou pour le dire avec les mots plus classiques de l'apôtre et de la théologie, à se savoir sauver. Nos rires et nos chants, parfois nos larmes et nos cris, peuvent alors être les rameaux avec lesquels nous accueillons cette libération et ce libérateur.